RFI, 8h à Paris, 7h en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Jeanne Bartoli. À la une, Israël confirme officiellement un accord de trêve avec le Hamas.
Après des tensions survenues hier, le bureau de Benjamin Netanyahou confirme l'accord qui doit désormais être validé par le cabinet de sécurité. Aujourd'hui, alors que l'armée israélienne continue de bombarder Gaza, nous sommes à Jérusalem dans un instant. On parle aussi dans ce journal du déplacement du président iranien en Russie, signature d'un important accord de coopération à la clé, alors que Téhéran semble de plus en plus isolé. Ce sera le sujet du dossier de ce 8h. Nous serons aussi au Groenland. Comment réagit-on sur place aux propos de Donald Trump qui dit vouloir prendre le contrôle du territoire? Nous serons avec notre envoyé spécial. L'actualité en France, François Bayrou qui échappe sans surprise à la censure. La gauche se fracture. Et puis on reviendra à la fin de ce journal sur la disparition de David Lynch, le réalisateur de Mulholland Drive et d'Elephant Man, est mort hier à l'âge de 78 ans.
80 morts en 24 heures selon le Hamas. Les bombes continuent de s'abattre sur Gaza malgré l'annonce d'un cessez-le-feu.
Et un accord de trêve qui doit entrer en vigueur dimanche. Il a donc été confirmé officiellement par Israël il y a quelques heures après des tensions de dernière minute hier avec le Hamas. Reste une étape essentielle désormais, sa validation par le cabinet de sécurité et par le gouvernement israélien. En direct de Jérusalem avec nous, Sami Boukhelifa, bonjour.
Bonjour à tous.
La réunion du cabinet israélien devrait se tenir, Sami, ce matin.
Après avoir été annulée à deux reprises, mais cette fois-ci, le cabinet de sécurité israélien devrait effectivement entériner l'accord d'ici une heure, selon le bureau du Premier ministre. Benjamin Netanyahou a été sévèrement critiqué durant les dernières 48 heures. Alors que l'accord avait été conclu mercredi soir à Doha, il n'a fait que retarder sa validation, accusant le Hamas de chercher à provoquer une crise de dernière minute. Mais le mouvement islamiste palestinien a formellement démenti ces accusations. Un journaliste israélien écrit « Repousser l'échéance d'un jour » c'est condamner les otages israéliens à passer un jour de plus en captivité, c'est inacceptable. Alors Benjamin Netanyahou doit trancher, mais c'est ce qu'il déteste le plus, il joue toujours les prolongations et attend que les choses tournent en sa faveur, c'est sa méthode, confie une source diplomatique israélienne. Car le Premier ministre israélien est sous pression internationale exercée par Donald Trump. Le président élu américain souhaite clore le dossier de la guerre à Gaza et libérer les otages israéliens, pas question pour lui de revenir en arrière. Mais Benjamin Netanyahou subit également une pression interne, celle de ses ministres de l'extrême droite, qui menacent de quitter son gouvernement car ils jugent l'accord irresponsable.
Sami Boukhelifa, merci, en direct avec nous ce matin de Jérusalem. Cet accord qui prévoit, on le rappelle, la libération de 33 otages israéliens et de centaines de prisonniers palestiniens. Il comporte également un volet humanitaire et une entrée plus importante de l'aide humanitaire dans le territoire de Gaza. Autre accord de cessez-le-feu, celui trouvé fin novembre entre le Hezbollah libanais et Israël. Le président français est en visite éclair aujourd'hui au Liban. Il va plaider Emmanuel Macron pour compléter dans le temps imparti par l'accord, c'est-à-dire d'ici au 26 janvier, le retrait de l'armée israélienne du sud du Liban et le déploiement de l'armée libanaise. On parlait du Hezbollah libanais soutenu par l'Iran, pays qui ressort isolé de ces derniers mois, la chute de son allié Bachar al-Assad en Syrie, l'affaiblissement notable du Hezbollah donc au Liban. C'est dans ce contexte que le régime iranien se tourne désormais vers la Russie. C'est le dossier de ce 8 heures. Le président iranien Massoud Pezeshkian doit arriver en ce moment même dans la capitale russe où l'on vous retrouve, Anissa El-Jabri. Bonjour Anissa.
Bonjour.
Alors au programme, un accord dit de partenariat stratégique global entre les deux pays. L'ambassade iranienne en Russie parle de coopération économique dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et des questions liées à la défense et à la sécurité. Pas plus de détails, Anissa, mais Moscou a conclu l'an dernier un traité portant le même nom avec la Corée du Nord.
Voilà, et en cette période où la Russie nie la présence de soldats nord-coréens dans la région de Koursk, on peut se souvenir que le traité signé avec Pyongyang, ratifié par les députés russes en octobre 2024, prévoit notamment une aide militaire immédiate en cas d'agression armée de pays tiers. Alors faut-il s'attendre à la même clause avec Téhéran, alors que l'Ukraine dénonce déjà régulièrement des attaques massives de drones Shahid lancées par la Russie ce mardi? En tout cas, en conférence de presse, le chef de la diplomatie russe s'est attaché à dégonfler le sujet. Sergueï Lavrov jugeait notamment, je cite, « Nos collègues occidentaux veulent toujours trouver un sujet dans n'importe quelle question qui montrera que la Russie et l'Iran, la Russie et la Chine, la Russie et la Corée du Nord sont toujours en train de préparer quelque chose contre quelqu'un. Avec Pezeshkian élu en juillet dernier, l'Iran a en tout cas initié un rapprochement rapide avec Moscou. Les contacts personnels se sont intensifiés. Par exemple, en septembre dernier, le président iranien recevait Sergueï Choïgou, le secrétaire du Conseil de sécurité russe.
Et Anissa, le contexte de ce déplacement est évidemment important. En fait, c'est un traité qui a été annoncé depuis l'automne, mais il est signé un peu plus de 3 jours avant l'investiture de Donald Trump.
Et dans ce contexte, évidemment, eh bien, beaucoup jugent qu'il faut voir dans cette visite et cette signature un signal à Washington. Mais là aussi, la Russie fait beaucoup pour ne pas avoir l'air d'agiter un chiffon rouge. Écoutez l'analyste Mikhail Vinogradov.
C'est plutôt le signal que les deux parties ne sont pas inactives. Elles sont à la fois nerveuses et à la fois essaient de démontrer une sorte de coordination, chacune étant une cible potentielle pour les États-Unis. C'est probablement surtout le cas pour l'Iran, car c'est ce qui est attendu de l'administration Trump. En fait, il s'agit d'une ouverture pour commencer le jeu diplomatique, car Moscou ne cherche pas à sérieusement irriter l'administration américaine. Moscou ne comprend pas clairement à quoi s'attendre de la part de Washington, mais elle admet qu'il y a un vrai potentiel d'interaction. Je ne pense donc pas que ce traité soit la marque d'un grand bond qualitatif à venir dans la relation Téhéran-Moscou, même si évidemment Washington traitera cette nouvelle alliance sans enthousiasme.
Et Moscou sait aussi qu'il faudra sans doute affronter la colère d'Israël et à minima les sourcils froncés de la Turquie. La Turquie qui est à ses yeux un partenaire bien plus important quand la Russie ne partage même pas de frontières terrestres avec l'Iran.
Anissa Al-Jabri en direct avec nous de Moscou pour ce dossier du 8h que vous retrouvez d'ores et déjà sur RFI.fr. Anissa, vous parliez de la Turquie où le maire du district de Beşiktaş à Istanbul, bastion de l'opposition du CHP, a été incarcéré cette nuit. C'est la deuxième fois en 3 mois qu'un maire du principal parti d'opposition turque se retrouve en prison. L'opposition estime que cette nouvelle arrestation vise à préparer le terrain avant de s'attaquer peut-être au très populaire maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, grand rival de Recep Tayyip Erdogan.
C'est un événement qui sera à suivre sur RFI. Lundi 20 janvier, l'investiture de Donald Trump aux États-Unis.
La capitale américaine Washington se prépare à cette investiture. Niveau de sécurité sans précédent après une campagne électorale marquée par des violences. Washington qui se prépare, tout comme les partenaires économiques des États-Unis, comme le Groenland, territoire autonome, rattaché certes au Danemark, mais qui entretient des liens économiques étroits avec Washington et qui possède d'ailleurs de vastes réserves minières et pétrolières. Juste avant Noël, Donald Trump avait lâché un pavé dans la mare, estimant que le contrôle du Groenland était une nécessité absolue. Depuis, le feuilleton continue. Ottilia Ferret, vous êtes notre envoyée spéciale au Groenland. Bonjour.
Bonjour.
Alors, comment réagit-on sur place aux propos de Donald Trump ?
Alors, je crois que pour répondre à cette question, on va directement écouter Tida, une Inuite habitante de Nuuk.
Ils n'en ont rien à foutre. Les gens ne peuvent pas être achetés. On sait bien depuis des générations à quel point les peuples indigènes comme nous sont maltraités aux États-Unis.
Mais hier soir, j'ai croisé un garçon de 16 ans qui avait sur la tête une casquette rouge avec écrit dessus, vous l'aurez compris, le fameux MAGA. Je lui ai demandé où il l'avait eu et il m'a répondu que c'était Nelk Boys qui les avait distribués en ville quelques jours après le passage de Don Jr. Nelk Boys, c'est une chaîne YouTube américaine qui faisait à la base des canulars, mais qui s'est ensuite mis à promouvoir le Parti des Républicains. L'avis de ce jeune sur le président élu, le voici.
Je trouve qu'il est cool et sympa, mais on ne peut pas acheter un pays.
Une autre Groenlandaise m'a aussi emmené là où Donald Trump Jr. a pris des photos avec des locaux quand il est venu sur l'île. Elle m'a raconté qu'il a distribué des casquettes Make America Great Again et qu'il a invité des SDF et des chômeurs à déjeuner dans un restaurant assez cher ici à Nuuk. Selon elle, ces quelques locaux y seraient allés sans vraiment comprendre qui Don Jr. était. Ils voulaient juste profiter d'un repas gratuit avec une célébrité selon elle. Tida, qu'on entendait à l'instant, m'a aussi dit que les équipes du fils Trump avaient même distribué de l'argent dans les rues.
Ils donnaient des billets de 100 ou $500 à des enfants.
Ce qu'on ressent ici, c'est que les Groenlandais sont pour certains assez fiers, mais surtout très surpris d'avoir attiré l'attention de Trump. Mais ses propos sur l'annexion du territoire autonome, ils ne les prennent pas vraiment au sérieux.
Ottilia Ferret, merci. Envoyé spécial d'RFI au Groenland.
En France, François Bayrou a survécu à sa première motion de censure.
Ce n'est pas une surprise, puisque le Rassemblement national avait exclu de voter la motion déposée par la France insoumise et soutenue par les communistes et les écologistes. Les socialistes ont fait le choix de se dissocier de l'alliance de gauche du NFP en ne votant pas la motion. La méthode de négociation de François Bayrou avec le PS a donc, semble-t-il, porté ses fruits. Mais le plus dur reste à faire, trouver un chemin pour sortir de l'instabilité et surtout faire adopter un budget, Valérie Gasse.
Surtout ne pas fanfaronner dans l'entourage de François Bayrou. On est resté sobre pour réagir à la décision du PS de ne pas voter la censure. Une dynamique est engagée, néanmoins l'heure reste à la concentration, à l'humilité et au travail pour les Français, des mots mesurés. Car dans l'ascension de l'Himalaya, l'image choisie par François Bayrou pour décrire l'ampleur de sa tâche à Matignon, le Premier ministre sait qu'il est à peine arrivé au camp de base et cela au prix déjà de nombreuses concessions annoncées petit à petit pour convaincre le PS. Des concessions qui coûtent cher, environ 6 milliards, alors qu'il faut trouver 30 milliards d'économies et 20 milliards de recettes pour faire le budget. Mais sur le plan politique, François Bayrou engrange des points. Un cadre macroniste se réjouit que le Premier ministre ait permis au PS de passer à l'acte et d'affaiblir le NFP, mais aussi qu'il ait réussi à sortir de l'étau du RN. Même du côté de l'Élysée, on veut voir le positif plus que le risque de détricotage de la politique présidentielle, en expliquant que François Bayrou a répondu à la demande initiale d'Emmanuel Macron, un accord de non-censure sans les extrêmes. Reste une question, jusqu'à quand ?
Valérie Gasse, chef du service politique d'RFI, au chapitre économique à présent. On apprend que le groupe public français Orano Exareva a signé aujourd'hui avec la Mongolie un accord pour l'exploitation d'une vaste mine d'uranium. Information révélée par l'agence France Presse. Investissement présenté par Paris comme important pour l'approvisionnement des centrales nucléaires françaises. Orano qui a engagé un arbitrage international à la fin de l'an dernier contre l'État du Niger qui avait suspendu le permis d'exploitation d'un gros gisement par sa filiale.
Plus au nord, direction à présent l'Algérie, Jeanne.
Oui, un ressortissant espagnol, selon les informations d'RFI, a été kidnappé mardi soir près de Tamanrasset. Des hommes armés l'ont emmené au Mali voisin. L'Espagne confirme d'y travailler activement pour clarifier les faits et porter secours à son ressortissant. Cet enlèvement n'a pas été revendiqué, mais les sources jointes par RFI accusent la branche sahélienne du groupe djihadiste État islamique. David Bachy.
À Sécrem est une zone montagneuse et touristique que les chancelleries occidentales déconseillent à leurs ressortissants. Selon plusieurs cadres rebelles du FLA dans le nord du Mali et selon des sources communautaires locales, c'est là que l'enlèvement a eu lieu. Ni son identité précise, ni le motif de son séjour n'ont pu être suffisamment recoupés. Après l'enlèvement, les ravisseurs prennent la direction du Mali voisin. Leur véhicule traverse la frontière vers Tinzawaten, puis gagne la région de Ménaka. Pas de revendication. La frontière Algérie-Mali est dans la zone d'influence du JNIM liée à Al-Qaïda, mais les sources jointes par RFI pointent unanimement l'État islamique au Sahel. Ce que le repli dans la région malienne de Ménaka, contrôlée par le IS, semble confirmer. Cet enlèvement est un revers pour l'Algérie qui réussissait depuis plusieurs années à contenir la menace djihadiste sur son territoire. En 2013, la prise d'otage du site gazier d'In Amenas avait fait près de 40 morts. En 2014, un randonneur français avait été exécuté près de Tizi Ouzou par un groupe affilié à l'État islamique.
Enfin, c'était un rêveur, visionnaire et singulier dont les films résisteront au temps.
L'hommage rendu par Steven Spielberg à David Lynch, le réalisateur américain disparu hier à l'âge de 78 ans. Il avait tourné 10 films en 30 ans, dont certains sont considérés comme des monuments du cinéma. Retour ce matin sur sa carrière avec à Los Angeles Loïc Piella.
La carrière sur grand écran de David Lynch démarre avec un film d'horreur surréaliste en noir et blanc. Eraserhead est différent, original à part, comme à chaque fois que Lynch prend place derrière la caméra.
Je ne suis pas un animal. Je suis un être humain.
Sur le papier, Elephant Man, son deuxième film, est risqué. L'histoire de Joseph Merrick traité comme une bête de foire à cause de son visage déformé. Lynch en fait un chef-d'œuvre, 8 fois nommé aux Oscars et succès en salle. Dune, grosse production, n'est pas non plus un projet facile et cette fois, c'est un pari perdu. Après Blue Velvet, parfait exemple du style lynchien, mélange de mystère, d'étrangeté et de violence, Sailor et Lula lui vaut une palme d'or en 1990. Twin Peaks, adapté de sa série télévisée révolutionnaire pour l'époque, devient vite culte. Et puis, Lost Highway, Mulholland Drive et Inland Empire finissent d'asseoir son statut de cinéaste du rêve, auteur de films qu'on ne comprend pas toujours, mais qu'on n'oublie jamais. Loïc Piala, Los Angeles RFI.
David Lynch, il est 8h15 à Paris. Tout de suite, c'est Julien Coquel-Rouhem.
Merci Jeanne Bartoli et tout de suite la revue de presse. Avec vous, Catherine Potel, autour de la presse internationale et à la une, l'attente à Gaza et en Israël.
Il s'agit bien sûr de l'attente d'un cessez-le-feu qui devrait intervenir dimanche et de la libération des otages israéliens à Gaza. Une attente vécue dans la douleur. Les retards survenus ces dernières heures avant la conclusion d'un accord ont été vécus comme une torture par les familles des otages. C'est ce qu'explique Stéphane Brisley, un proche d'otage dans les colonnes du Guardian. Je suis prudemment optimiste, mais un peu méfiant en même temps. Il attend la libération de son beau-frère, dont l'épouse, sa sœur et les deux fillettes, ses nièces, ont été tuées le 7 octobre. De son côté, Gilad Kornol, 63 ans, ne sait pas ce qui est arrivé à son fils de 39 ans, qui a été enlevé au kibbutz Be'eri. Ne pas savoir, explique-t-il, nous a fait vivre comme des zombies au cours des 467 derniers jours.
C'est l'attente, également côté palestinien.
L'attente et la peur, car la trêve ne doit entrer en vigueur que dimanche, donc, et pendant ce temps, la guerre continue à Gaza. C'est le cas avant chaque cessez-le-feu, explique un volontaire de la défense civile, interrogé par le quotidien belge Le Soir. Après l'annonce de la trêve, notre joie s'est transformée en tristesse lorsque nous avons appris que 40 membres d'une même famille venaient d'être tués dans un bombardement sur le camp de réfugiés de Jabalia. Nous n'avons retrouvé que des restes de corps humains et nous savons qu'il y en a encore une vingtaine sous les décombres. Même écho dans la Repubblica en Italie. Les moments de joie éphémère que nous avons connus mercredi soir au milieu de l'obscurité et de la douleur ont été effacés, raconte une jeune palestinienne. Israël nous a ramenés à notre réalité sanglante.
La trêve n'est pas encore entrée en vigueur donc, mais on se demande déjà à qui en revient le mérite.
C'est Aretz qui pose la question. À qui en revient le mérite? À Biden ou à Trump? Le camp du président qui sera investi lundi, revendique un effet Trump alors que Joe Biden a mis en avant les diplomates qui n'ont jamais cessé d'essayer de parvenir à un cessez-le-feu. D'un côté, poursuit le quotidien israélien, les efforts de l'équipe Biden ont créé le cadre de l'accord et les efforts, malgré les échecs répétés, ont contribué à ouvrir la voie du succès de mercredi. De l'autre, poursuit Aretz, les efforts de Witkoff, le futur émissaire de Donald Trump pour le Proche-Orient, ont permis de faire en une seule réunion ce que les responsables de Biden n'ont pas réussi à faire pendant plus d'un an, ce qui pose la question de savoir si l'administration sortante a fait tout ce qu'elle pouvait pour faire pression sur Israël. Au final, assure Aretz, c'est un partenariat tout à fait remarquable qui a finalement permis de conclure l'accord.
Et puis on en parlait, Catherine, dans le journal. L'actualité ce matin, c'est aussi évidemment la disparition de David Lynch.
Le réalisateur de Blue Velvet et Twin Peaks est mort à l'âge de 78 ans, titre le Wall Street Journal. Les œuvres de Lynch pour la télévision et le cinéma explorent souvent les secrets, parfois dérangeants, des banlieues et des petites villes américaines, remarque le quotidien américain, qui cite une déclaration du réalisateur datant de 2012. Les gens disent que mes films sont sombres, mais comme la lumière, l'obscurité naît d'un reflet du monde. En France, Libération salue le cinéaste américain qui a irrémédiablement marqué le 7e art avec une œuvre culte et sans pareil. L'annonce de son décès est évidemment un coup de tonnerre artistique majeur, tant il a soudé une communauté immense d'admirateurs qui ont basculé dans son monde et l'ont exploré avec lui. Enfin, Le Monde salue, lui, un génie du cinéma indépendant américain et un réalisateur envoûtant et mystérieux.
Catherine Potet, pour la revue de presse, merci beaucoup. C'est dans 3 jours aux États-Unis le retour triomphal et revanchard de Donald Trump à la Maison-Blanche et dans le sillage de sa victoire. Un cortège d'inquiétudes, la promesse d'expulsion massive d'immigrés clandestins, des droits de douane sur les importations, mais aussi des coupes franches dans les dépenses et les effectifs de l'État fédéral. Une mission, le DOGE, pour ministère de l'efficacité des services publics, va même être créée et confiée à l'homme d'affaires Elon Musk, et cela fait peur aux fonctionnaires fédéraux. Reportage à Washington, Guillaume Nodin.
Nous sommes dans un parc de Washington, loin du Pentagone, où travaille la femme avec laquelle nous avons rendez-vous. Elle se fait appeler Lucy, mais ce n'est pas son vrai nom. Cette haut responsable du ministère de la Défense va quitter ses fonctions et elle veut bien parler, mais sous couvert d'anonymat, pour expliquer que les milliers de fonctionnaires fédéraux qu'elle dirige sont inquiets.
Les gens sont affolés, très très tendus, ils sont très inquiets de perdre leur boulot. Ils s'inquiètent aussi beaucoup du DOGE. Est-ce que ça va vraiment exister? Est-ce que ça va peser beaucoup? Ils ont l'impression qu'Elon Musk a le Pentagone dans le collimateur, ce qui est assez ironique parce que nous avons financé beaucoup de ces entreprises. Nous subventionnons SpaceX en quelque sorte. Alors c'est quand même bizarre de nous attaquer.
La défense n'est pas le seul domaine qui est dans le viseur. Billy, ce n'est pas non plus son vrai nom et il a tenu à ce que sa voix soit modifiée. Travaille lui pour l'Agence de protection de l'environnement. Il s'attend au pire.
Je m'attends à des choses comme l'obligation de revenir en présentiel au bureau, peut-être des déménagements, des agences déplacées, des bâtiments où elles sont installées depuis des décennies vers de nouvelles villes, peut-être des licenciements. Il y a de la peur. Je crois qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et je pense qu'il y a aussi un peu de résignation, particulièrement pour les gens qui ont connu la première présidence Trump. Il y a un sentiment de déjà-vu.
Il y a une raison à toutes ces précautions, à ce choix de ne pas parler à visage découvert, c'est de ne pas être spécifiquement visé. Tim Washington travaille dans une organisation qui protège les lanceurs d'alerte du secteur de l'environnement.
Cette administration a des listes de personnes à viser. C'est très inquiétant. Et c'est sans précédent. Et c'est généralement basé sur les convictions personnelles de chacun et non sur les qualités de fonctionnaire. Par exemple, la Heritage Foundation a demandé des informations sur les mots que les fonctionnaires ont utilisés dans leur courriel. Il y a par exemple « changement climatique », « orientation sexuelle », « transgenre ». Il y a toute une série de mots dans leurs demandes sur des employés qui ont utilisé ces mots avec l'idée qu'ils ne seraient pas loyaux au président Trump.
Elon Musk promet de faire maigrir l'État fédéral pour atteindre les 2000 milliards de dollars d'économies. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Notre reportage international à retrouver sur RFI.fr. Et en parlant de services publics, on part à présent au Royaume-Uni. C'est devenu un symbole, souvent convoqué, notamment dans les campagnes électorales. L'hôpital public britannique est malade et se faire soigner aux urgences relève de plus en plus du parcours de combattants. Un film d'horreur, le chaos, voilà comment les soignants qui y travaillent décrivent ces services dans un rapport qui vient d'être publié par le principal syndicat infirmier, le RCN. Bonjour Emeline Vin.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Ce rapport dépeint un nouveau type de soins, le corridor care, ou le fait de soigner dans un couloir.
Et oui, près de 7 infirmières sur 10 disent soigner tous les jours des patients dans des endroits inadaptés. Les couloirs des urgences, les sorties de secours, des placards, les cabinets de toilettes, parfois même sur les parkings. Ces patients passent souvent des heures et des heures dans ces endroits inadaptés, alors qu'ils sont bien souvent, vous vous en doutez, dans un état de santé inquiétant, ils vomissent, ils font des malaises. Le RCN, le Royal College of Nursing, dénonce un manque d'intimité. Il faut parler avec eux et les familles devant tout le monde, un manque de dignité aussi. Et puis, l'organisation infirmière juge que cela met des patients en danger. Pas de sonnerie d'alarme à proximité, pas de source d'oxygène ou encore de possibilité d'apporter un défibrillateur en cas de besoin. Le rapport, il fait plus de 400 pages. Il contient près de 5000 témoignages de soignants aux urgences. Eux aussi, ils pâtissent de cette situation. À chaque page, l'un d'entre eux raconte qu'il serait horrifié de voir l'un de ses parents aux urgences, qu'ils sont épuisés de devoir soigner jusqu'à 40 personnes à la fois dans ces conditions. Et tous souffrent de mal soigner leurs patients, de ne pas pouvoir exercer leur vocation de manière humaine.
La situation paraît effrayante, Emeline. Est-ce qu'il s'agit de la crise hivernale ?
C'est vrai que les hôpitaux sont toujours sous plus de pression en hiver avec la grippe, les virus respiratoires. Mais en l'occurrence, cette crise, elle dure depuis des mois, voire des années. même si le NHS, l'hôpital public, ne tient pas de données précises sur ce sujet. Sur les réseaux sociaux, certaines retraitées me racontaient hier qu'il était déjà habituel de traiter les patients dans les couloirs et sur les parkings il y a 10 ans. Été comme hiver, les journaux font régulièrement leur une sur le chaos aux urgences. La racine du problème, c'est le manque de moyens depuis la cure d'austérité dans les années 2010. Ça se traduit dans tous les aspects des soins, hein, pas seulement aux urgences. Par exemple, il y a près de 7 millions de Britanniques actuellement sur liste d'attente pour un traitement contre le cancer, pour une thérapie, pour une maladie chronique ou encore une opération pour une prothèse de hanche. Les plus fortunés vont dans le privé, les autres n'ont pas le choix que d'attendre en espérant que leur état ne se dégrade pas trop.
Vous n'avez en tout cas pas l'air surprise de ce rapport, Emeline. Est-ce qu'il a fait du bruit chez vous ?
Bien, pas tant que ça, en réalité, précisément parce que ce n'est pas surprenant. On l'a dit, ça fait des années que les soignants alertent sur leurs conditions de travail, sur la manière dont les Britanniques sont pris en charge à l'hôpital. La reconstruction du NHS fait partie des grandes promesses du gouvernement travailliste arrivé au pouvoir en juillet. Le ministre de la Santé a dénoncé ce jeudi des conditions intolérables, mais simplement rejeté la faute sur les 14 années de politique conservatrice de la part de ses prédécesseurs, en indiquant que les dégâts prendraient beaucoup de temps à réparer.
Emeline Vin, merci beaucoup et bonne journée à Londres où il est 7h25, même heure en temps universel. Et avant le journal, les dessous de l'Infox, comme chaque vendredi, ce matin, cap sur Los Angeles, où les pompiers tentent toujours de contenir les flammes. Plus d'une semaine après le début des incendies, le dernier bilan fait état de 24 morts. Les destructions sont immenses, une catastrophe historique marquée par un flot de fausses informations d'une rare intensité sur les réseaux sociaux. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour Julien.
L'origine de ces incendies, le travail des pompiers, les rescapés, rien n'échappe à cette désinformation, à tel point que certaines des images les plus partagées aujourd'hui sont fausses ou sorties de leur contexte.
Oui, si vous avez passé du temps sur les réseaux sociaux ces derniers jours, vous êtes probablement tombé sur l'une de ces deux images aériennes montrant une maison au toit rouge prétendument épargnée par les flammes. Tout le quartier semble avoir été détruit, sauf ces luxueuses résidences. Si les deux maisons se ressemblent, ce ne sont pas les mêmes. L'une est en bord de mer, l'autre en pleine ville. Les internautes qui partagent ces photos en sont persuadés. Elles montreraient, je cite, la maison d'un croyant de Los Angeles miraculeusement protégée par Dieu. Un récit sur lequel plusieurs auditeurs nous ont alertés.
Sauf que ces deux images n'ont rien à voir avec les incendies en cours à Los Angeles.
Non, la première photo est bien authentique, mais elle n'a pas été prise dans la Cité des Anges. Une recherche par image inversée permet de retrouver sa trace dans la banque d'images de l'agence France Presse. On y apprend en légende qu'elle montre une maison dans le quartier de Lahaina à la suite des incendies mortels à Hawaï en août 2023. La résidence avait été épargnée, notamment grâce à sa toiture en tôle épaisse et à l'absence de végétation à proximité.
Et qu'en est-il du deuxième cliché ?
Eh bien, si visuellement tout semble vrai, l'image a en réalité été générée par une intelligence artificielle. Le seul moyen de s'en rendre compte, c'est de faire une recherche par image inversée sur Google, puis d'aller dans l'onglet « À propos de l'image ». Un message apparaît alors indiquant « Image créée avec l'IA de Google ».
Mais Grégory, comment Google sait-il que quelqu'un a généré cette image avec son intelligence artificielle ?
Alors pour son outil de génération d'images baptisé Imagen, la firme américaine utilise ce que l'on appelle des watermarks, des filigranes invisibles à l'œil nu mais identifiables par un logiciel. Ce tatouage numérique atteste donc de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais sans faire cette démarche de vérification, il est impossible de s'en rendre compte.
Et une image synthétique qui fait aujourd'hui l'objet de nombreuses instrumentalisations.
Oui, religieuse d'abord, avec de nombreux messages parlant d'une intervention divine. Certains affirment à tort que cette maison appartenait à une famille chrétienne, d'autres à une famille musulmane. Et puis certains complotistes ont aussi diffusé cette image assurant que l'incendie était volontaire et ne ciblait que certaines habitations. De récits trompeurs vus des dizaines de millions de fois sur les réseaux sociaux. Et résultat, cette Infox figure aujourd'hui parmi les images les plus vues concernant les incendies de Los Angeles. On est donc là face à un énième exemple de détournement de l'IA qui perturbe les perceptions d'un événement mondial et invisibilise les vraies images de la catastrophe.
Grégory Genevrier pour les Dessous de l'Infox. Merci beaucoup. Et les Dessous de l'Infox, l'émission, c'est ce soir à 17h30, temps universel. On retrouve aussi toutes les infos de la cellule Info Vérif d'RFI sur notre site rfi.fr.
RFI à Kaolac, 91.4 FM.
Nzéré Corée, 89.9 FM. My French Film Festival, le premier festival de cinéma francophone entièrement en ligne, revient du 17 janvier au 17 février. Retrouvez le meilleur du jeune cinéma francophone à travers une sélection de 20 films sous-titrés en 8 langues, disponibles dans le monde entier et gratuits dans de nombreux pays. Rendez-vous sur myfrenchfilmfestival.com pour découvrir les films et de nombreux contenus exclusifs. My French Film Festival, du 17 janvier au 17 février, en partenariat avec France Média Monde.
Un jour au village, Penaï Traoré.
Savez-vous que le gombo peut aussi pousser en Île-de-France ? Ce légume tropical est consommé en Europe par les populations issues de l'immigration. Une expérimentation a été menée par une ONG avec pour objectif d'intéresser la diaspora africaine à l'agriculture en France.
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tous les samedis à 13h10 TU sur RFI.